Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et si c'était dans notre œil que le bât blessait profondément? Lorsqu'on lit l'évangile d'aujourd'hui, on constate que, effectivement, tout se passe par ce sens de la vue. Parce qu'on a cet aveugle-là qui n'y voit cure et qui demande à son sauveur de lui rendre la vue, parce que la foule, en voyant, est dans l'admiration, parce que un peu partout dans l'évangile, au-delà de ce simple chapitre d'aujourd'hui, ce passage d'aujourd'hui, en permanence, le Seigneur fait allusion à la vue. Souvenez-vous, il y a 15 jours, dans la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, des ouvriers de la 11e heure, lorsque les ouvriers de la première heure reprochent au maître de la vigne de donner autant à ses ouvriers de la 11e heure qu'à eux, que répond le maître? Faut-il que votre œil soit mauvais pour que vous ne supportiez pas que moi je sois bon? Je vous rappelle encore cette autre parole fameuse entre toutes de Jésus, ne vois-tu pas la poutre qu'il y a dans ton œil lorsque tu discernes la paille qui est dans celle de ton frère? Ou lorsque ton œil est pur, ton corps tout entier est pur. Voyez donc que le regard a, pour le Seigneur Jésus, une importance fondamentale. Et à quoi sert le carême, sinon à nous purifier le regard? Parce que, il faut bien le reconnaître, en permanence, à cause de ce satané regard que nous portons sur toute chose, sur les autres, bien sûr, mais sur nous-mêmes en réalité, et jusqu'à Dieu, eh bien nous sommes dans la position inverse de la fameuse hymne à la charité que nous venons de réciter à la suite de saint Paul. C'est-à-dire que cet œil-là, qui est mauvais, qui est en permanence dans le jugement, comme on dit, qui en permanence considère que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, bien sûr, que dans sa propre pâture, cet œil-là, qui va jusqu'à regarder Dieu avec haine, ou qui va jusqu'à se fermer devant le Créateur et devant la magnificence de ses œuvres et l'évidence de son intervention permanente à notre secours, voilà donc que cet œil nous mène loin de Dieu. À quoi sert le carême donc, sinon à nous sevrer le regard? C'est-à-dire à commencer par fermer le regard sur toutes ces étincelantes lumières qui nous attirent de droite et de gauche en permanence. Non seulement ces réclames publicitaires, mais en réalité cette espèce de mouvement perpétuel d'excitation du monde qui cache mal sa vacuité. Nous sommes, il faut le reconnaître, bien de notre temps, et du reste je crois que c'est vieux comme l'humanité, que sans cesse de chercher le divertissement, selon le terme de Pascal. Le divertissement qui empêche la vie intérieure, le divertissement qui nous disperse et qui nous fait projeter sur le monde un regard qui ne convient pas. C'est cette fameuse convoitise ou la concupiscence. La triple concupiscence, et parmi ces trois éléments de la concupiscence, il y a l'orgueil de la vue. Et ça, c'est saint Jean qui veut crucifier cette tendance que nous avons en permanence à jeter sur le regard un œil impudique, à chercher une connaissance qui ne nous appartient pas d'avoir, tel Adam et Ève qui veulent manger dans le fruit et en réalité accéder à la connaissance de toute chose. Ce regard impudique qui veut fouiller la personne qui est à côté de nous, qui veut connaître le secret de cette personne jusqu'à l'épuiser. Sommes-nous donc la Providence? Sommes-nous donc le Créateur et le Sauveur pour avoir cet accès direct à l'âme? Vous savez que l'ange mauvais lui-même, Lucifer, le plus grand des anges déchus, n'a pas accès à l'âme des créatures. Et lorsqu'il possède une personne, il ne possède que sa sensibilité, son corps. Il ne peut pas accéder à ce sanctuaire où Dieu seul pénètre. Et nous, avec notre petit regard perçant, nous croyons pouvoir épuiser le mystère de l'autre. Il faut donc entrer dans une espèce de sevrage, encore une fois, de purification du regard au cours de ce carême. Et comment peut-on purifier le regard, sinon premièrement par la contemplation? Je vous ai parlé la semaine dernière de l'oraison. Je vous ai dit qu'il fallait, mais vous sortez d'une semaine, vu vos regards radieux et justement vos yeux scintillants, je pense que vous avez mis en application tout ce que nous avions vu la semaine dernière quant à l'oraison, c'est-à-dire ces 10 minutes, ce quart d'heure quotidien au cours duquel nous cherchons à nous mettre en présence de Dieu, à nous ramasser en quelque sorte. Eh bien, je vous parle aujourd'hui de la contemplation, qui est le fruit de l'oraison. C'est-à-dire que lorsqu'on est en présence de Dieu, Dieu se manifeste à nous. Il suffit que nous lui montrions un peu de bonne volonté, et comme un petit enfant qui piaille, ses parents finissent bien par venir, parce qu'au fond, il l'aime, cet enfant. Même s'il les réveille toutes les nuits, ils viennent. Eh bien, Dieu est exactement un père pour nous. Il est même plus qu'un père, il est une mère à la fois. Il est notre créateur et son cœur bat pour nous. Si j'ose dire, avec une formule de parler, une formule d'expression un petit peu anthropomorphique. Dieu donc est tout disposé à se manifester à nous. Et alors, nous pouvons le contempler. Et vous me direz, mais Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est écrit dans l'Écriture. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez que nous puissions contempler Dieu ? Non, nous allons regarder une image, nous allons regarder un crucifix, le tabernacle, que sais-je, et ça suffira bien comme ça. Et non, c'est pas du tout ça. Ce à quoi nous pouvons accéder, c'est, dès cette terre, à une contemplation de Dieu. Comment ? Mais dans la personne de Jésus. Montre-nous le Père, lui dit Philippe à la fin de sa vie terrestre. Que lui répond le Christ, Philippe ? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as toujours pas compris. Qui me voit, voit le Père. Et où est-ce que nous voyons Jésus ? Dans l'Écriture, dans l'hostie, bien sûr, donc dans l'adoration, dans toutes sortes de lieux où l'Église, en bonne mère, nous indique que son époux est. Et contemplant Jésus, entendant ses paroles, admirant ses faits et gestes, nous entrons dans la contemplation de la Trinité. Et cette contemplation de la Trinité fait que notre regard se purifie, nécessairement. Parce que lorsque nous regardons ces trois personnes qui, entre elles, sont d'une prévenance incroyable, l'hymne à la charité de saint Paul, c'est d'abord une hymne qui décrit la vie intime de la Trinité. C'est pas d'abord une feuille de route, un objectif à atteindre, qu'en fait on n'atteint jamais, parce que cette hymne à la charité qu'on vous célèbre, qu'on vous lit à peu près à tous les mariages, qui est très belle, j'entends mariage dans le nouveau rite, du coup, eh bien, cette hymne à la charité-là, les époux en sont émerveillés, et ils ont raison, mais ils se disent qu'ils n'arriveront jamais à vivre de cette ligne de crête, hein, qu'est l'hymne à la charité. En réalité, l'hymne à la charité nous décrit ce qui se passe dans la Trinité. Et lorsque nous la lisons, nous contemplons ce qui se passe dans la Trinité. Cette prévenance mutuelle entre les trois personnes divines, où aucune ne garde pour elle la divinité, mais la transmet ou la reçoit des deux autres. Cette joie, cette communion d'amour profonde, où rien ne distingue les trois, sinon leur relation. Ils se donnent, ils se reçoivent encore une fois. C'est une pure extase, au sens étymologique du terme, extare, sortir de soi, qui se passe dans la Trinité. Vous voyez que lorsqu'on regarde l'abnégation de Jésus, lorsqu'on regarde sa bonté pour nous, mais aussi lorsqu'on regarde la Trinité à laquelle il nous introduit, mais nous ne pouvons pas ne pas essayer de faire de même vis-à-vis de nos frères. C'est-à-dire d'avoir un regard de bienveillance, d'avoir un regard tout disposé à écouter, d'avoir une oreille tout disposée à écouter. Que fait Jésus sinon en permanence écouter son Père, cueillir ses décrets et les exécuter ? Par amour, avec quel empressement nous le voyons dans l'Écriture qui en témoigne. Eh bien, de la même manière, après avoir contemplé ces trois personnes divines, je vous assure que c'est très concret. Si vous ne me croyez pas, essayez donc une semaine d'oraison avec l'Évangile, avec cette personne de Jésus qui nous décrit qui est son Père, quels sont les liens qu'ils entretiennent l'un l'autre, et je vous promets que vous entrerez dans la contemplation. Et entrer dans cette contemplation, votre regard ne pourra que se purifier. Si vous n'y mettez pas trop d'obstacles, c'est-à-dire que vous retournerez de ces 10 minutes ou de ce quart d'heure d'oraison vers vos frères avec un tout autre regard. Bien sûr, les choses ne dureront que 10 minutes, un quart d'heure, une heure, que sais-je, mais à force de répéter cette méditation, cette entrée dans la présence des trois, forcément, votre œil se purifiera. Voyez donc, le programme de notre carême est très simple. Plus que de se faire mal, plus que d'essayer de retrouver la ligne qu'on a perdue, plus que de passer des heures à genoux en se prouvant qu'on est capable de tenir comme un moine du désert, ou plus que de lire avec une recherche d'efficacité tel ou tel livre de l'Écriture, tout cela est très bon, mais tout cela n'est pas fondamental. Que devons-nous faire ? Sevrer notre regard, couper tout ce qui nous disperse. Je vous redis ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais avec cet échelon supplémentaire que nous ajoutons, qu'est la contemplation. Vous entrez en oraison, vous ramassez vos sens et vous observez, ou plutôt vous vous mettez en présence de Dieu, et contemplant la Trinité, nécessairement vous revenez au monde avec le regard même de Dieu sur toute chose, qui est un regard de mansuétude, qui est un regard de bonté. Car c'est ça, en réalité, que nous permet la charité. Renouveler, purifier notre regard. Voir dans le monde, même dans les souffrances, même dans, que sais-je, les cyclones, même dans les gouvernements qui nous font subir toutes sortes de choses iniques, la main de Dieu. Voilà ce que permet cette entrée dans la contemplation et cette charité qui purifie notre regard. En toute chose, nous voyons la main de Dieu. C'est ce qui caractérise les saints, je vous ferai remarquer, qui, tout en se battant contre les gouvernements iniques, qui, tout en cherchant à remédier aux maux humains, les épidémies, les calamités, combien d'hôpitaux, combien de soins ont été prodigués par des saints, en même temps, ne cessent de voir Dieu en toute chose. Et donc, en toute créature, un être aimé de Dieu, en toute créature humaine, un être unique, aimé d'un amour de prédilection personnelle, pour lequel Jésus a versé la totalité de son sang. Jésus ayant versé, il le dit à Sainte Catherine de Sienne, la totalité de son sang pour chacun d'entre nous. Voyez donc l'enjeu de ce carême, il n'est pas seulement d'essayer de se priver de quelques plats ou de, encore une fois, de faire une ou deux minutes de prière de plus, trois ou quatre chapelets par-ci par-là. Il est vraiment d'entrer en présence de Dieu, de sorte que nous soyons purifiés et qu'enfin nous cessions de regarder notre frère, notre sœur, comme s'il était notre débiteur, notre débitrice, comme s'il était la source de tous les maux, ou de cesser de regarder le Créateur comme s'il n'intervenait pas, comme si on ne voyait jamais la preuve qu'il était là et qu'il veillait sur nous comme mieux encore qu'une poule qui veille sur ses poussins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.